Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, Clotilde Seil, ici au micro dans le chic studio de Canal M, dans les locaux de Vues et Voix. C'est une nouvelle émission des livres plein les oreilles que je vous propose aujourd'hui avec plein d'invités, plein de titres à vous proposer, plein de nouveautés qui viennent d'arriver en version audio adaptée, bien sûr, pour votre plus grand plaisir, via le SQLA, le service québécois du livre adapté, et le CAEB maintenant qu'il faut que je rajoute, hein, parce que grâce au CAEB, vous pouvez écouter ces livres-là partout. Au Canada et ici au Québec, eh bien c'est grâce au SQLA. Quoique, il y a dans l'air une signature qui ferait que on pourrait aussi peut-être profiter de tous ces livres-là très très prochainement. Je vous en reparlerai, bien sûr. Aujourd'hui à l'émission, Jean Brière, avec qui je vais m'entretenir dans quelques secondes, Vincent Marissal pour son livre « Nos amis les politiciens, il est déjà en studio ». Bonjour Vincent.
Bonjour.
Et puis également Carmen Lepage qu'on va retrouver en seconde partie de l'émission. Bonjour Jean Brière à Québec.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien?
Fort bien.
Ça va bien. Bon, bah écoutez, on est dans la continuité parce qu'il y a quoi? Il y a deux ou trois semaines, on évoquait la vie de Marilyn Monroe et surtout la mort de Marilyn Monroe, directement reliée à la vie de M. John F. Kennedy. Et vous nous parlez d'un livre directement relié à la mort de John F. Kennedy. Il me semble que j'ai fait bien des circonvolutions pour arriver à mon point.
Oui, mais l'important, c'est de s'y rendre.
C'est ça, exactement. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vous laisse le soin de nous présenter le titre du livre et son auteur.
Le roman s'intitule en français 22-11-63, 22 novembre 63. Ça, c'est une date fatidique dans la psyché de l'Américain moyen. C'est l'assassinat de John F. Kennedy, président des États-Unis à cette époque. Et le grand romancier Stephen King en a fait un roman en 2011. Mm-hmm. Un roman fameux.
Oui.
Oui, tout à fait fameux. Moi, je dirais que c'est le roman qui trône toujours au sommet de mon palmarès,
c'est
de mes romans favoris de 2016.
Oh!
Oui. Je suis pas un amateur de Stephen King, j'en ai en fait jamais lu. Je connais un peu son œuvre parce qu'il y a de ses romans aussi qui ont été adaptés au cinéma. Puis on sait qu'il fait dans le fantastique et même dans l'horreur.
Oui, plus encore, oui, c'est ça, oui.
Et là, on n'est pas là.
Pas du tout, hein?
Non, on est dans la science-fiction à saveur fantastique, mais il n'y a pas d'entité de l'au-delà.
OK. Alors donc, il est dans la réalité, hein, dans cette journée terrible où l'on voit, la tête de John F. Kennedy atteinte et mortellement. Hein, et donc, il fait quoi? C'est une recherche de la vérité? Qu'est-ce que c'est, juste?
C'est d'abord basé sur le thème du voyage dans le temps.
Allons bon.
Alors lui, il imagine une histoire qui met en scène un Américain moyen, contemporain, là, de 2011, professeur de collège, qui, par un concours de circonstances, se voit proposer une mission très importante, celle de sauver le président Kennedy de l'assassinat. Il y a beaucoup d'explications que vous découvrirez lisant. Là.
Oui.
Mais essentiellement, c'est ça. Alors, c'est sa mission. Puis lui, c'est un citoyen ordinaire, mais...
Avec une
mission extraordinaire. Puis, c'est aussi l'imagination américaine là, du héros solitaire qui accomplit sa mission. C'est toujours beau. Moi, j'aime bien ça. Il fait son devoir. Et il se retrouve donc envoyé en 1958. Il doit passer 5 ans dans l'ancien temps.
Oui.
De 1958, bref, à 1963, où il doit un peu connaître les mœurs, puis on en profite justement pour visiter l'Amérique des années 60, avec ses mœurs, avec
oui.
son, son histoire avec...
Sa musique, tout ça.
Sa musique, exact. Ouais. Ses voitures.
Oui.
ce qui gâche rien, moi qui aime beaucoup les voitures.
C'est vrai.
Oui. Alors,
donc, on est dans l'univers d'Elvis, de James Dean aussi peut-être, tout ça?
Oui.
OK.
Oui. Alors, comme c'est un professeur, pour passer le temps, bien, il décide d'enseigner à cette époque-là aussi, en attendant le moment où il devra intervenir.
Mm-hmm.
Puis, il fait aussi en douce une enquête sur l'assassin connu de John F. Kennedy. Il fait une enquête, il fait une filature pour connaître là, les motivations de l'individu, puis à savoir s'il a agi seul, etc. etc.
Monsieur Oswald, hein? Lee Harvey.
Exactement. Okay. Tout à fait. Tout à fait. Et il tente d'intervenir. Et, au travers de tout ça, c'est magnifique parce qu'on observe la société américaine avec ses mœurs, les collèges des États-Unis, et il y a aussi une splendide histoire d'amour.
Oh.
Le type tombe en amour avec une femme de l'époque,
oui.
Avec tout le questionnement puis les troubles éthiques que ça lui cause d'être en amour avec une femme de l'époque.
Mais oui, mais oui.
Puis de l'impliquer là-dedans, qu'est-ce qui se passera dans l'avenir, etc.
Oui.
Et c'est une très belle histoire d'amour. Et c'est enlevant. C'est un roman policier de suspense et d'aventure. Mm-hmm. On s'ennuie pas. Même s'il fait 930 pages, presque 30 heures d'écoute,
oula.
Oui, on est toujours quand même sur le qui-vive.
C'est vrai, assis sur le bout de sa chaise, là.
Ah oui, on ne s'endort pas dans son fauteuil.
Ah non, hein? Non, c'est ça. Je lisais à un moment donné une critique qui disait que le propos, la construction, les descriptions, que tout dans ce livre respire l'intelligence.
Oui.
Hein?
Bon, je pense qu'on peut le dire. On comprend pourquoi Stephen King est le maître du suspense aux États-Unis.
Mm-hmm.
Et je pense même partout dans le monde. C'est enlevant, c'est intéressant. Il y a plein de rebondissements. C'est bien écrit, c'est bien documenté aussi. C'est rigoureux dans les faits. Là.
Et puis aussi, je lisais une autre critique que je trouvais fort bien écrite et vous me direz ce que vous en pensez. Vous êtes fan du King, jetez-vous là-dessus. Vous ne connaissez pas le King, donc Stephen King, jetez-vous là-dessus. Vous n'êtes pas friand de science-fiction, ben ça tombe bien, ce roman n'en est pas vraiment un, donc jetez-vous là-dessus. Vous êtes fan de science-fiction, ce n'est peut-être pas le sujet principal, mais ça vous parlera tout de même, donc jetez-vous là-dessus. Vous aimez les longs romans, jetez-vous là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement, parce que on peut avoir peur de l'horreur avec Stephen King, il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Quand il veut être gore, il est gore. Hein. On s'entend. Alors, en tout cas, si vous n'en avez pas lu tellement, c'est ce qu'on dit. Moi, j'en ai lu quelques-uns, je vous avouerai, parce que je trouve qu'il y a dans la littérature de King, je pense au fléau, par exemple. Bon, tous les gens qui aiment Star Wars et compagnie, le bien, le mal. Moi, je trouve que le bien et le mal, tel qu'écrit dans son livre qui s'appelle Le Fléau et que je vous recommande, mon ami, avec des moments effectivement très, très sanglants, très, très douloureux, mais en même temps, on est loin de ne faire que dans cela. Il y a c'est un roman épique et très, très intelligent sur le thème si souvent traité du bien et du mal. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose avec ce livre-là, le 22-11-63.
Oui, parce qu'il y a un questionnement philosophique qui se dessine là-dedans. Est-ce qu'on peut intervenir dans le passé et quel sera l'effet de l'intervention dans le passé sur le temps contemporain?
Et ça, je ne vous poserai pas la question parce que c'est évidemment, j'imagine, toute la fin du livre.
Et je ne vous répondrai pas.
Alors, vous êtes très
parce
gentil.
Que je veux que nos amis lecteurs prennent connaissance de ce livre.
Bon.
C'est très, très intéressant.
Bon, ben, écoutez, Jean Brière à Québec, un fidèle auditeur de l'émission, mais aussi un fidèle chroniqueur qui accepte très, très volontiers de partager avec vous, avec nous, ses lectures. Il nous parlait donc ce matin du 22-11-63 de Stephen King, une brique de presque 1000 pages qui nous ramène en 1963 et même avant, quelques années avant que John Kennedy soit assassiné. Voilà. Merci beaucoup, Jean.
C'est toujours un plaisir de vous parler.
Merci infiniment et passez une belle fin de journée.
Au revoir.
Au revoir. Vincent Marissal, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là. Je dois dire que vous êtes le deuxième cette saison chroniqueur politique, puisque votre collègue et ami, d'ailleurs,
et ami.
Vous en parlez hein, souvent. Vous avez d'excellents mots pour elle. Chantal Hébert
mon
est
ancienne,
venue.
Mon ancienne coloc à Ottawa.
Ah, ben oui.
Avec qui j'ai dû faire la 417, quoi, 300-400 fois, j'imagine.
Ah oui, alors ça, ça crée des liens.
Et une genre de mentor aussi, ou
oui, hein.
Vous savez, dans le vieux système, il y avait les maîtres et les apprentis. Moi, ouais. J'ai eu la chance d'apprendre ce métier-là de politique avec Chantal, oui, bien sûr, mais des gens aussi comme Michel Vastel, qui nous a quittés malheureusement. Jean Lapierre, qui est un grand ami aussi, qui lui aussi nous a quittés bien trop vite en plus.
Ouais.
Michel David, Michel COG, des gens comme ça qui sont... Gilbert Lavoie, qui sont tous... 10 ou 15 ans plus vieux que moi, mais qui m'ont beaucoup aidé, qui ont été généreux aussi avec moi. Alors, ouais, ça me fait plaisir de passer après Chantal. C'est naturel.
On remarquait que vous auriez pu passer avant aussi, je vous le garantis. Mais il y a une chose qui vous différencie, c'est que vous n'aviez pas la politique dans la peau.
Non.
Vous êtes arrivé là par hasard, d'ailleurs, vous le racontez au début de ce livre que je voudrais quand même bien vous présenter. C'est que si Vincent Marissal est avec nous, avec vous aujourd'hui, c'est qu'il signe ce papier, ça c'est l'habitude, quand je faisais la revue de presse, parce que je vous ai lu pendant des années ici à voix haute dans le cadre de la revue de presse. Alors, il signe un bouquin, « Nos amis les politiciens », sous-titre « Carnet d'observation de la faune politique
».
Nos amis les politiciens, c'est vous le titre?
Oui.
Parce que déjà rien que dans le titre.
Oui, il y avait quelque chose.
Il y a beaucoup de choses.
C'est un peu chargé parce que ça fait un peu, ça fait référence un peu évidemment à nos amis les animaux ou nos amis les bêtes. On dit ça plus en France peut-être qu'ici, mais j'ai eu un doute d'ailleurs. Je me suis dit, je veux pas que ce soit interprété comme un sarcasme. Il y a certainement quelques passages sarcastiques dans le livre, mais ils sont appuyés sur des anecdotes et sur les personnages dont je parle. Je voulais pas. D'écrire un autre livre qui allait ajouter une autre brique à l'édifice du désabusement collectif envers les politiciens. Au contraire, j'ai essayé de les dépeindre comme je les ai connus, avec leurs défauts, avec leurs qualités, mais ayant le plus grand respect pour ces gens-là qui ont le courage de faire de la politique, parce qu'il faut être courageux. Je ne voulais pas que ça ait l'air d'un livre un peu comme celui que le frère de Renaud avait écrit, Nos amis les chanteurs, je crois, en France, qui était grinçant, qui était extrêmement virulent envers le milieu. C'est pas ce que j'ai voulu faire. C'est pas ce que je ferais de toute façon.
D'après vous, quelle devrait être la principale qualité d'une personnalité politique, Vincent Marissal?
Je crois que ceux et celles qui se sont plantés devant mes yeux avaient tous le même défaut. Je prends votre question à l'envers, en fait.
OK, d'accord.
Et ils avaient tous le même défaut, c'est qu'ils n'avaient aucun sens de l'humour et d'autodérision. Et je pense qu'on peut pas faire de la politique, on peut pas faire un métier public, mais ça vaut pour moi aussi.
Ça, c'était ma prochaine question.
Ça vaut pour vous aussi qui êtes sur la place publique, qui avez l'immense bonheur et privilège de diffuser. Si on n'est pas capable de prendre la critique, si on pense qu'on a raison en toutes circonstances, si on est trop soupe au lait, je pense par exemple à un type comme Gilles Duceppe, que j'aime bien, pour qui j'ai beaucoup de respect. Monsieur Duceppe n'a pas beaucoup d'autodérision, puis moi je pense qu'il s'est fait beaucoup de mal pendant beaucoup d'années. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas réussi, mais je pense qu'il a été un très bon politicien. Je pense qu'il aurait été un excellent politicien s'il avait su mettre un petit peu d'eau dans son vin, puis être un peu moins soupe au lait. Ceux qui sont capables de le faire réussissent mieux, puis je pense qu'ils dorment mieux.
Ouais.
Parce que c'est dur. C'est un métier.
C'est dur parce qu'en même temps, des coups... On en prend tellement.
On en prend
tellement. D'ailleurs, il y a un point commun parce que le chroniqueur aussi en prend beaucoup des coups.
Ah, bien sûr. On en prend, mais on en donne. Alors, c'est pas voulu. Moi, je m'assois jamais devant mon ordinateur en disant, celle-là, je vais la planter ou celui-là, je vais lui en mettre plein la tronche. C'est pas ça, ça vient naturel. Puis parfois, les chroniques sont un peu plus virulentes parce que c'est le sujet qui amène ça. Mais c'est une très mauvaise idée que d'écrire des chroniques pour... se venger ou pour taper sur quelqu'un. Sauf que, bon, évidemment, je critique. J'ai gratigné beaucoup de monde depuis bien des années. Puis évidemment, ben, ça paraît des fois dans la relance puis dans la réaction que j'ai de ces gens-là qui sont des humains. Et je ne peux pas compter le nombre de fois où certains m'ont appelé ou m'ont apostrophé, parfois même presque physiquement.
Oui.
Dans le cas de Nicolas Dair, par exemple.
Oui.
Les plus sanguins, les plus soupe au lait sont parfois ceux qui ont les réactions les plus dures.
Et puis, par contre, il y a aussi des gens qui sont fantastiques. Et puis, vous les écorchez. Et puis, le lendemain, on se retrouve dans le même bus. Ça, d'ailleurs, je n'ai jamais compris comment vous faites. Quand vous suivez des campagnes et que vous vous ramassez les uns et les autres et que finalement, parfois, vous passez d'ailleurs des bons moments au fond du bus à vous parler comme ça, bon, à bâton rompu, c'est quelque chose aussi que vous racontez à un moment donné dans le livre. Ouais. Et à un moment donné, vous écorchez, mais bon, lequel, je pense que c'est ici peut-être... Passer l'éponge, ah oui, comment faites-vous? J'ai noté en page 77. Il y a quelques années, évidemment, je vous lis, hein, Vincent Marissal, j'avais écrit une chronique qui lui donnait le mauvais rôle. On parle là de, je vais retrouver de qui il s'agit, je m'excuse, il faut que je retourne au début de votre... Ah ben c'est Denis Coderre.
Ah ben voilà.
Alors que vous avez appelé Denis Coderre le bouli.
Denis le boulier.
Ah oui, c'est ça. Et vous lui aviez, alors vous dites que vous lui aviez donné le mauvais rôle dans une autre bataille interne au PLC, et il m'avait envoyé très tôt, racontez-vous, le matin, un message disant « Tu te tiens trop avec les mêmes personnes, Vincent, dommage, bonne journée ». Cela n'avait toutefois pas empêché Denis Coderre de me donner du frérot quelque temps après, avant d'être de nouveau froissé, puis de passer l'éponge, puis d'être encore plus froid. Ça n'arrête pas.
Non, ben en particulier avec Denis Coderre, que je connais quand même depuis plus de 20 ans. J'ai une relation en montagne russe avec Denis. Effectivement, certaines fois, c'est frérot, puis les poignées de main, puis on a l'impression qu'on a élevé les cochons ensemble. Après ça, il ne retourne plus mes appels pendant un mois ou deux mois, trois mois. C'est même parfois plus long que ça. C'est souvent comme ça avec plusieurs politiciens. Puis vous disiez, à la fin, vous êtes quand même capable de fraterniser.
Mais oui.
Mais pas toujours, hein?
Non.
Pas toujours.
Non.
Oui, avec la plupart, parce que la plupart, justement, j'y reviens, sont capables de se dire, il y a une joute ici. Hein, ce qu'on appelle, en mauvais français, la game politique.
Bien sûr.
On est capable, là, pendant la partie, de jouer dur, de jouer des coudes, mais après, de se parler aussi, puis de se le dire carrément. Je ne sais pas combien de fois des politiciens sont venus me dire « je n'étais pas d'accord avec ton interprétation » ou « tu t'es trompé », ça arrive aussi, on n'est pas infaillible. Mais j'ai vu aussi des campagnes électorales totalement glaciales, où il n'y avait aucun lien, aucune communication. Stephen Harper, les deux dernières campagnes électorales, il n'est pas allé une seule fois en arrière de l'avion pour saluer les journalistes. Parce qu'il faut savoir que dans les avions, c'est généralement des avions quand même, des Airbus 320 ou des 737,
oui,
ce ne sont pas de petits avions.
Non.
Donc, la section avant, la section affaires, autrement dit, est réservée au premier ministre ou au chef et son entourage. Ensuite, parfois, on ferme même le rideau et les journalistes, les méchants, on les met en arrière.
En classe économique.
Puis s'il y a du personnel technique, nous, on est encore plus en arrière. Alors, on est vraiment en arrière dans le fond de l'avion. Cela dit, il y a une espèce de tradition qui veut qu'avant un long vol, par exemple, si on fait, je ne sais pas moi, Saint-Jean-Terre-Neuve-Régina, on en a pour 4-5 heures en l'air. Normalement, le politicien, Jean Chrétien le faisait toujours.
Oui.
Il venait nous saluer avant le long vol. J'ai même vu, moi, Paul Martin, ça m'avait un peu offusqué d'ailleurs. J'ai même vu Paul Martin servir de la bière alors qu'il n'était pas premier ministre dans un avion.
Ah oui.
Et tout le monde l'appelait Paul. Hey, Paul, give me a beer. Puis moi, je trouvais que ça manquait totalement de décorum. J'étais avec Chantal Hébert aussi, qui était aussi.
Et bien, je trouvais que ça manquait
de décorum un peu. Mais Stephen Harper, toujours pour dire que pendant les deux dernières campagnes, il n'est pas allé une seule fois jamais en arrière.
Jamais.
Stockwell Day, vous vous souvenez de Stockwell Day, l'Alliance canadienne, en 2000, les derniers jours de campagne, c'était épouvantable. Il faisait exprès de nous faire travailler jusqu'à des heures indues. On mangeait carrément des burgers froids de réchauffés au micro-ondes parce qu'il savait qu'il avait perdu la campagne puis il nous avait pris en grippe. Mais j'ose croire que les collègues qui suivent Donald Trump en ce moment, ça ne doit pas être très chaleureux non plus, là, aux États-Unis.
Oh là 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 là, justement, oui, j'y pensais, je vous écoutais parler, puis je disais, j'aimerais pas être dans les avions.
J'ai jamais
en ce
vu
moment.
Un comme ça. Un phénomène de cet acabit.
Tiens,
pas ici.
Oh, écoutez, tant pis, je vous pose une question. Allez, on s'éloigne un petit peu du livre. Mm-hmm. Est-ce que je peux?
Bien sûr.
Je ne comprends pas comment et pourquoi Mme Hillary Clinton, en quelque part, entre guillemets, rentre dans son jeu. Je veux dire, à la fin des débats, c'est le gros sourire et je te prends. Comment ça se fait que cette femme-là, à un moment donné, ne reste pas devant la caméra puis dire, serrer la main puis dire, écoutez, monsieur, moi, vraiment... Je ne sais pas, là, qu'est-ce que... Moi,
ben, cela dit, au dernier débat, ils ne se sont pas serrés la main. C'était
non,
une première,
ça,
c'était
ça,
la première fois, donc il s'est passé quelque chose-là d'assez étonnant. Le dernier débat, vous l'avez écouté, je l'ai regardé aussi. Moi, ça m'a étonné un moment même que Mme Clinton se retourne pas carrément pour lui dire « Qu'est-ce que vous faites? »
Vous êtes
carrément dans ma bulle, retournez. Moi, je l'aurais fait, ne serait-ce que stratégiquement. Tactiquement, je pense que ça aurait été une bonne occasion de relancer cette idée, en plus que l'homme est menaçant envers la femme. Je crois qu'il l'est, mais son langage corporel dégage ça. Sauf qu'il y a des débats à gagner. Puis Mme Clinton n'a pas le luxe de ne plus faire campagne. Parce que aussi étonnant et fou que ça puisse paraître, théoriquement, Donald Trump a encore une chance.
Oh oui, absolument.
Alors, c'est surréaliste. Mais allez. Cela dit, on joue la partie comme ça aussi. Moi, j'en ai vu des débats ici au Canada ou au Québec avec des gens qui ne s'aiment pas beaucoup, qui n'avaient pas beaucoup de respect les uns pour les autres, mais qui finissaient quand même par faire des débats, puis à essayer de jouer le jeu. Ça ne veut pas dire après qu'ils sont plus copains-copains.
Non, c'est ça. Non. Il y en a un qui m'est presque soudainement devenu sympathique en vous lisant.
Ouais.
C'est Jean Chrétien.
Oui, moi j'ai un petit faible pour Jean Chrétien, je dois dire.
Est-ce que je peux citer ça?
Bien sûr.
Toute sa vie, écrivez-vous, Jean Chrétien a soigné son image d'homme simple, d'origine modeste, qui a su rester lui-même. Quiconque l'a côtoyé en privé au cours de sa longue carrière sait d'ailleurs qu'il y a deux Jean Chrétien.
Ouais, ouais.
Il y a la bête politique populiste au franc-parler, coloré, gaffeur. Et en privé, il y a l'homme cultivé qui fréquente les musées, qui lit les grands auteurs et les livres d'histoire et qui parle un français impeccable appris chez les Jésuites. « Je suis, disait Jean Chrétien, victime de mon personnage de populiste. Ça enrage mes sœurs qui vivent à Outremont de m'entendre parler comme je parle. Mais si je parlais trop bien, je ne gagnerais pas mes élections », m'avait-il dit au cours de cette même entrevue.
Ah oui, je m'en souviens très bien. C'était une longue entrevue qu'on avait fait à 24 Sussex, là, la résidence
oui, c'est ça,
des premiers ministres qui est en rénovation en ce moment, là, qui est fermée. Et puis, Jean Chrétien s'était pris au jeu parce que c'était un gars assez attachant, finalement.
Oui, oui.
Mais
oui.
Il m'avait copieusement engueulé aussi. Je ne sais pas si c'était cette entrevue-là ou une autre, parce que j'avais écrit qu'il était retourné à Shawinigan justement ouvrir un musée, le magnifique musée là, de Shawinigan, dans les anciennes installations de l'Alcan, si je ne me trompe pas. Et j'avais écrit Jean Ier, le roi retourne dans son fief. Et puis, il avait tellement pas aimé ça. Il m'avait engueulé pendant, je pense, les 10 premières minutes de l'entrevue. À tel point qu'à un moment donné, mon collègue avait dit « Bon, M. Chrétien, si ça vous dérange pas, on va commencer l'entrevue. » Mais cela dit, il était entier. Et il avait plein de défauts, mais il avait les qualités équivalentes aussi. C'était pas quelqu'un, premièrement, qui fuyait la presse. Avec Stephen Harper, et c'est peut-être pour ça que j'ai apprécié encore davantage M. Chrétien, c'est de me taper 10 ans de M. Harper. Avec M. Harper, on a eu des scènes totalement surréalistes où les journalistes étaient tenus à l'écart derrière des barrières anti-manifestation gardées par des agents de la GRC. Ça, on voit ça dans certains pays totalitaires. Là.
C'est ça.
J'ai l'impression, effectivement, que dans certains pays, en Corée du Nord, par exemple, c'est pas facile d'approcher le dictateur. Mais avec Jean Chrétien, c'était pas ça. Jean Chrétien, il voulait prendre des questions, il les prenait toutes. On le voyait 3-4 fois par semaine. Monsieur Harper, il y a été des moments où on l'a pas vu, les journalistes n'ont pas posé de questions pendant des semaines. Et c'est pas normal dans une démocratie comme la nôtre, parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mmh. Alors, le bonhomme, oui, il avait des défauts, il était rustique. Il jouait le personnage de Jean Chrétien, il exagérait beaucoup. Parfois, il disait des trucs totalement délirants. Mais cela dit, c'est un politicien aussi, et je pense que c'est ça qui force l'admiration, c'est que il était tellement sous-évalué, il était tellement sous-estimé. En anglais, on dit l'underdog, le négligé, et même un peu ridiculisé, parce que lui, il avait grandi dans l'ombre du très grand Pierre Elliott Trudeau, intellectuel, riche, bilingue,
flamboyant,
les belles voitures, les belles femmes, la belle vie. Jean Chrétien a grandi dans son ombre, et puis même M. Trudeau, père, avait parfois des mots un peu durs envers Jean Chrétien, un peu méprisants. Alors, il a finalement fait ce que peu de politiciens font et ce qui force le respect, surtout de la part d'un chroniqueur politique, c'est qu'il a défié toutes les attentes. Et il disait toujours, moi, j'aime mieux être sous-estimé puis livrer davantage, pardonnez-moi l'anglicisme, que de promettre beaucoup et de ne pas livrer. Alors, j'aime mieux, moi, au départ, effectivement, être négligé. Et c'est le cas, c'est ce qu'il
c'est
a fait.
C'est exactement ce qui est arrivé.
Il a fait aussi des choses importantes pour le pays. Je pense, par exemple, à la légalisation du mariage gay. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Et je pense que sa plus grande décision, c'est celle qu'il n'a pas prise, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas envoyés dans le bourbier en Irak.
Exactement.
Alors, après coup, probablement que lui trouverait ça très injuste. Probablement qu'il se dirait, pourquoi tu n'as pas écrit toutes ces choses, toutes ces louanges, puis louanges, je le mets vraiment en guillemets, alors que j'étais premier ministre. Mais c'est souvent ça, on est jugé, l'histoire nous juge après coup, normalement.
Un politicien qui dit ce qu'il pense, quelle aubaine pour un chroniqueur politique, dites-vous en parlant de François Legault.
Oui.
Je répète, un politicien qui dit ce qu'il pense, quelle aubaine pour un chroniqueur politique. Mais alors, comment on peut les croire quand on lit ça?
on ne les croit pas, justement.
On ne les croit pas.
Alors, on passe notre temps à décoder. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? On a eu un exemple récemment, encore une fois. Jean-François Lisée, pendant toute la campagne à la direction du PQ, tape très, très fort sur le clou de l'immigration, les dossiers identitaires. Et une fois élu, le lendemain, il dit, ben là, je vais m'ajuster parce que j'ai fait des promesses et j'ai pris des positions en étant candidat à la direction. Maintenant, j'en suis le chef, alors je vais devoir m'ajuster. Alors, lequel des deux Jean-François Lisée va apparaître? C'est un peu schizophrène comme approche. François Legault, si vous le rencontrez dans son bureau, vous lui dites bon, « Salut François, comment ça va? La CAQ, ça va mal la CAQ? » Il va dire « Oui, ça va mal la CAQ. » Si ça va mal, il va le dire carrément. Il dit « Oui, on n'a pas atteint nos objectifs. » C'est quelqu'un, effectivement, qui est assez franc, mais pas beaucoup de filtres.
Je voulais qu'on garde un petit peu de temps pour la grande dame, parce que c'est comme ça que vous l'appelez.
Oui, il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs,
Pauline
Marotte. Des femmes.
Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Lisa Frula, Pauline, et puis...
Et il y a Françoise David.
Françoise David, évidemment. Oui, c'est ça. En ce qui concerne Pauline Marois, donc la grande dame, il y a ce dialogue que vous avez devant un verre de vin et une assiette qu'elle avait à peine touchée. C'était la triste soirée de novembre 2005. Elle réalisait pour une deuxième fois en quelques années que la route vers la direction de son parti lui était barrée. Elle avait subi une défaite humiliante, il faut bien le dire, devant André Boisclair. Et vous lui avez demandé, est-ce que le fait d'être une femme a joué contre vous? D'ailleurs, je remarque que vous tutoyez la plupart des hommes politiques, mais vous n'avez pas tutoyé Madame Marois. Mais elle vous tutoyait. Oui. Elle vous avait répondu, je te laisse juger, mais tu remarqueras que pratiquement aucun homme du caucus ne m'a appuyé.
Oui. On parlait d'Hillary Clinton tout à l'heure. Tous ces Américains qui la détestent profondément, moi, je pense qu'il y en a les trois quarts que c'est tout simplement parce que c'est une femme. Mais c'est accentué par le fait que c'est une femme. Et être ambitieuse, c'est épouvantable pour une femme d'avoir de l'ambition en politique.
Ben oui. Alors,
et puis, Louise Arel disait souvent, Louise Arel aussi aurait pu se retrouver dans le bouquin, Louise Arel disait souvent, un homme qui se lève à l'Assemblée nationale et qui hausse le ton, qui frappe son bureau, c'est un battant, c'est un combatif.
Ah ben oui.
Une femme qui hausse le ton, c'est une hystérique.
Ouais, c'est ça.
Et moi, je pense que ça a beaucoup joué. Moi, je l'ai toujours pensé que ça avait joué contre Pauline Marois, le fait que c'était une femme.
Ouais.
On disait, elle passe pas. Vous vous souvenez ce fameux député qui avait dit, la madame, elle passe pas.
Elle passe pas,
C'était sa chef, quand même.
Mais oui.
Il y a quelque chose même comme un manque de respect,
absolument,
là-dedans.
Absolument. Il nous reste 30 secondes. Oui. Vous avez affirmé, Lendan, que Mario Dumont serait un jour premier ministre du Québec. Vous y croyez encore?
Oui. Sa femme va me tuer, là. Marie-Claude va me tuer parce qu'elle veut absolument pas qu'il retourne en politique. Mais moi, je pense que Mario est trop jeune pour pouvoir venir. Et puis, c'est quelqu'un qui est en train de se bâtir une notoriété et un respect extraordinaire.
Vincent Marissal a écrit pour vous, pour nous, nos amis les politiciens, ne manquez pas ça. Merci beaucoup, Vincent Marissal, d'être venu
merci
pour nous en parler. Mais je vous en prie. Au revoir, bonne fin de journée.
Au revoir.
Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Et nous retrouvons avec grand plaisir aujourd'hui Carmen Lepage. Faut vous attraper, vous?
Ben oui, parce que entre deux voyages, je suis là, exactement. Bonjour Clotilde, ça fait plaisir de vous retrouver.
Bonjour à vous. Oui, moi aussi, je suis vraiment contente que vous soyez là, Carmen. Surtout que vous nous arrivez avec une proposition rare. Vous nous arrivez avec un livre un peu foufou, un peu rigolo, léger.
Oui, tout à fait. Un curieux de titre, ça s'appelle « Lavage à froid uniquement
».
Alors,
on aime ça.
Ça donne le ton dès le départ. Et c'est de Aurore Py, P-Y.
Mm-hmm.
C'est une jeune auteure française qui habite ou qui est installée en Suisse, comme son personnage d'ailleurs.
Ah oui.
Et... elle va enseigner le français, je parle de l'auteur, là. Elle va enseigner le français pendant un certain temps, mais là, elle se consacre à l'écriture et elle fait aussi comme son personnage principal. Elle s'occupe de ses enfants à la maison.
D'accord.
Alors, je vous donne un peu une idée de cette lecture, c'est-à-dire qu'au point de départ, moi, je pensais venir un peu avant, mais on n'a pas pu, j'ai pas pu. Et c'était vraiment l'idéal pour une lecture de vacances ou une lecture d'été. Mais
c'est
disons
vrai.
Que maintenant, on peut se dire que, comme novembre s'en vient, ça pourrait être une lecture anti-déprime avant l'hiver. C'est un livre agréable, fort agréable,
oui,
à lire.
Hein?
Ah oui, c'est l'intrigue est captivante. Ça met de bonne humeur et fait passer vraiment un bon moment. C'est une sorte de mélange de polar, de chick lit. Vous connaissez le chick lit?
Rappelez-moi un peu,
oui,
le chick lit.
Alors le chick lit, c'est comme la littérature de... La littérature de chick, c'est-à-dire de fille. Cette littérature que les jeunes femmes dans la trentaine lisent et qui est un mélange de... qui leur ressemble. Ce sont des femmes modernes. Mm-hmm. Souvent, elles sont célibataires. Elles sortent ou elles peuvent être mariées. Mais ce n'est pas du tout l'image romantique des anciens romans qu'on lisait, moi, quand j'avais cet âge-là. Alors, c'est un mélange de polar, de chick-lit et d'humour.
Bon,
voilà,
allez,
donc,
on aime ça.
L'histoire, une jeune mère de famille qui est une ancienne urgentologue a choisi de rester à la maison pour s'occuper de ses trois enfants, dont un garçon de 4 ans, Paul, qui est absolument adorable. Il commente tout dans le roman. Il reprend les événements et il les raconte comme s'il faisait un documentaire pour la télé. Mais, et elle a des jumeaux aussi, mais plus jeunes, 18 mois. Cette vie en apparence ordinaire l'amène toutefois à une dépression, malgré le fait qu'elle avait vraiment choisi ça. Mais une découverte singulière dans un espace commun de son immeuble va donner un tout autre tournant à son quotidien. Elle trouve un cadavre.
Dans le placard.
Dans un cagibi. dans la poussette de ses jumeaux. C'est un inconnu pour elle. Et elle décide de mener son enquête en parallèle avec l'inspecteur de la police, qui est l'inspecteur Granger, avec lequel elle va avoir des échanges assez amusants. Le langage est simple, clair, efficace, vivant, moderne, comme la narratrice qui nous raconte l'histoire. J'ai tiqué un peu, toutefois, sur l'utilisation d'anglicisme. Elle parle de la poussette des twins. Elle a trouvé le cadavre dans la poussette des twins.
Oh.
Elle parle des kids, des overseas, background, clean, girlfriend, safe. Mais on pourrait dire, elle a dit dans une entrevue que c'était cohérent avec son personnage parce qu'elle suit la réalité de ce personnage qui s'appelle Julie, qui vit, elle, à Lausanne, en Suisse. Et n'oublions pas que Lausanne, c'est une ville multiculturelle. Il y a 40%, paraît-il, d'étrangers qui communiquent entre eux en anglais. Donc, elle dit que c'est spontanément que ça lui est venu, ce langage, pour son personnage. Mais moi, je vais vous dire que je n'ai pas boudé mon plaisir au bout d'un certain temps.
Non.
Passé un peu l'irritation, on est en plein dedans, on se laisse prendre. Le rythme, un mot du rythme, c'est un rythme enlevant. Dès que Julie, l'héroïne, se met à l'enquête, il demeure le rythme incisif tout au long du récit qui nous mène à des révélations sur la famille de Julie, peu banale. Son frère est bipolaire et le cache à sa femme, italienne. Son père est entré dans les ordres chez les bénédictins, je crois, après le décès de sa mère. Et son mari, médecin lui aussi, est très absent. Malgré la légèreté apparente dans le ton, on y côtoie des petites angoisses courantes à toute personne. En fait, c'est pour ça qu'on peut s'y retrouver. On s'y pose de vraies questions sur le couple, le sens de la vie,
je vous interromps, mais je veux dire, alors, il ne faut pas y voir une petite beluette uniquement
c'est pas mièvre,
d'accord.
Donc, et je pense que ce n'est pas seulement les femmes qui peuvent s'y retrouver, les hommes aussi. Alors, son père est entré dans les ordres après le décès de sa mère et son mari, je l'ai dit déjà, mais ce que je voulais dire à propos du père, c'est que c'est intéressant la façon dont il décrit son choix de vie, parce qu'elle va le voir dans son abbaye. C'est vraiment dans l'ouverture d'esprit progressive vis-à-vis ce choix de vie, parce qu'elle n'est pas d'accord, on le sent au début. Et puis, c'est intéressant de ce point de vue-là.
Bien sûr.
C'est pas n'importe quoi.
Non, c'est
hein.
ça, exactement.
Bon, alors, on y côtoie, je disais, des petites angoisses, des vraies questions. On parle aussi du rôle de la mère au foyer, de l'importance du travail par rapport à la vision de la mère responsable qui doit s'occuper de ses enfants. Un mot sur la structure du livre, qui est extrêmement intéressante. Elle a été guidée et inspirée par les cycles du lavage. D'où le titre,
«
Lavage à froid uniquement
». Ah oui.
Alors, on pourrait dire que du pré-lavage jusqu'au vidage qui correspond bien à ce que Julie fait de sa vie grâce à cette histoire. C'est une prise de conscience importante, un nettoyage à fond. Mais pour, moi, je n'oserais pas dire pour les personnes délicates, mais il y a certains tissus qu'on doit traiter. Ce n'est pas un cycle délicat, hein? C'est un lavage à froid. Il y a des lainages qui rétrécissent quand on les lave à chaud. Donc, c'est plutôt ça. C'est une sensibilité, mais pas d'une femme qui est vraiment faible. Alors, c'est fragile et vulnérable. Lavage à froid uniquement, je vous le recommande. Vraiment.
Et si je peux me permettre, pour en savoir quelque chose, pour être native d'eux, mais le lavage à froid est vraiment très rare en France, à part, à part vraiment pour les couleurs très, très vives.
Ah oui, c'est vrai, pour éviter
qu'elles ne déteignent. Mais sinon, on lave à 30, à 50, à 60. Donc, il faut savoir à quel degré on lave. Mais, alors, plus on veut du blanc, par exemple, et plus on lave chaud, etc. Oui. Alors, c'est pour ça aussi que lavage à froid uniquement... Ça a aussi cette connotation-là, quoi. C'est comme, je sais pas, moi, j'ai pas lu le bouquin, je pourrais pas dire, mais c'est peut-être important que je vous précise ça.
Oui, d'accord. Ben merci beaucoup. Moi, il y a juste une petite citation que j'aurais aimé faire, c'est que elle est en amour avec son mari, qui s'appelle Adrien, puis elle dit à un certain moment, « Adrien était mon mari, un mari extraordinaire, avant qu'il ne devienne ordinaire. » J'ai bien aimé cette phrase-là. Parce que
Voulez-vous me la redire?
Elle dit, Adrien était mon mari.
Oui.
Un mari extraordinaire avant qu'il ne devienne ordinaire. Donc, ça correspond à une prise de conscience, voyez-vous, qu'on suit à travers ce lavage
de
l'héroïne. Voilà, merci.
C'est moi qui vous remercie. Mais merci, Carmen. Alors là, je sens qu'on va vous perdre encore quelques mois. Vous allez partir un peu au soleil.
Oui, je pars, mais pas tout de suite.
Ah bon?
Non.
Ah, bon,
et puis, je vais être de retour au printemps.
Bon, ben alors, il faudra revenir
avec les oiseaux et les feuilles.
Il nous fait le coup des outardes. Merci, Carmen Lepage. Alors, on va changer complètement d'ambiance avec un extrait du bouquin de Vincent Marissal, dont on a déjà parlé à l'émission, « Nos amis, les politiciens ». Alors, c'est un... Comme il le dit lui-même, d'ailleurs, dans les premières pages, il ne s'agissait pas pour lui de régler ses comptes ou de quoi que ce soit. Il écrit en page 11 que le seul but de l'exercice est d'approfondir l'image parfois superficielle qu'ont les lecteurs de politiciens qui sont ou ont été dans le paysage depuis des décennies. Alors écoutez, ça va de, évidemment, Madame Pauline Marois à Jean Charest, en passant par Mario Dumont, dont il prédit d'ailleurs, il dit, vous serez peut-être dans les premiers à le dire, mais Mario Dumont sera un jour Premier ministre au Québec. De la même façon qu'il avait prédit que ça risquait d'arriver pour Justin Trudeau. Alors, voyez-vous, donc, il y a déjà pas mal de temps qu'il l'avait dit. Chantal Hébert, d'ailleurs, hein, que nous avions reçu il y a quelques mois, ça avait été notre première invitée et elle avait dit la même chose, hein. Chantal Hébert, elle voyait Justin Trudeau au poste de Premier ministre fédéral. Eh bien, elle ne s'était pas trompée. Alors, un extrait, nous sommes dans les pages de Monsieur Stephen Harper, dont il dit ceci. Vincent Marissal. En tant que chroniqueur politique, je devrais remercier Stephen Harper. Oui, oui, le remercier. D'abord parce qu'il est devenu dans le paysage politique canadien un personnage très singulier et qu'il a enrichi la galerie de portraits, et ensuite parce qu'il a écrit quelques pages de son cru dans le grand livre des stratégies politiques efficaces au Canada, comme l'utilisation des wedge issues, soit des enjeux qui divisent et polarisent. Mais enfin parce qu'il a poussé plus loin que n'importe quel autre leader canadien le concept de publicité négative. Un sujet pour lequel je me passionne, dit Marissal, depuis des années. Oui, oh, je sais, on a les loisirs qu'on peut. Je dois dire toutefois que, comme beaucoup de mes compatriotes québécois, je n'éprouve aucune forme d'attachement pour le personnage. Je ressens envers M. Harper une certaine froideur, assez proche de l'indifférence, qui est réciproque, j'en suis sûr. Mon travail ne consiste évidemment pas à me faire des amis dans les parlements. C'est même assez souvent le contraire qui se produit. Mais à force de suivre un élu, à force de l'étudier, de l'écouter, au gré des rencontres privées aussi, on s'attache tout de même un peu. un mélange d'attachement, de considération et de respect, et le tout encadré par une saine distance. Avec Stephen Harper, il y a le respect pour un homme parti de rien, qui a accompli avec patience et précision presque tous ses objectifs. Mais il est plus juste de parler d'un mur coupe-feu que d'une saine distance. Lorsque je vois Stephen Harper poursuivre Vincent Marissal monter sur la scène d'une grande salle de spectacle pour jouer du piano et chanter des chansons des Beatles, j'éprouve un certain malaise devant une telle mise en scène destinée à humaniser quelqu'un de si distant. Pour une chronique du temps des fêtes, j'avais demandé une année à une galerie de politiciens de me dire notamment quel était leur projet pour la nouvelle année. La plupart disaient vouloir passer plus de temps avec leur famille ou réaliser un projet politique qui leur tenait à cœur. Stephen Harper, lui, voulait terminer la rédaction de son livre sur l'histoire des Maple Leafs de Toronto, ce qu'il fit d'ailleurs en 2012. Le hockey, c'est sa passion, mais pas au point d'en parler avec les affreux, et les affreux, c'est entre guillemets, journalistes. Francis Vaille, un collègue chroniqueur à la presse FR, s'est retrouvé un jour par hasard assis dans un restaurant à côté de M. Harper, qui ne le connaissait pas. Cordial, il engage la conversation avec le Premier ministre en parlant de « hockey ». Celui-ci répond, puis lui demande ce qu'il fait dans la vie. Au mot « journaliste », Stephen Harper a tourné la tête et l'a mis fin sur le champ à cette conversation anodine. Même pour les gens qui le connaissent bien et qui travaillent avec lui, Stephen Harper demeure un personnage insaisissable et indéfinissable. Politiquement, c'est une bibite étrange pour bien des Québécois. Son obsession monarchiste en particulier reste à mes yeux un mystère. Pourquoi le leader d'un pays indépendant, par ailleurs très porté sur les symboles patriotiques comme l'armée, le sport national ou le drapeau, peut-il vouloir absolument rappeler et même célébrer son passé de colonisé? Son plan patient et méticuleux pour d'abord réunir la droite, puis prendre le pouvoir, changer le Canada et affamer les autres partis, est par contre limpide. Alors, nos amis, les politiciens de Vincent Marissal, je vous en ai lu un bon extrait. C'est un livre absolument savoureux pour écouter tout ce qu'on peut découvrir sur les politiciens, et malheureusement, très peu de politiciennes encore là. C'est à l'image de ce que nous vivons. Il y a bien Lisa Frula, il y a bien... Madame, évidemment, Madame Pauline Marois, l'incontournable, mais bon, du côté des femmes, il n'y a pas grand monde et c'est pas de sa faute, hein, Vincent Marissal. C'est comme ça, c'est la vie politique. Dans la chronique des nouvelles et des livres aujourd'hui, ben, je me lance. J'ai rarement fait ça, mais au moment de la diffusion de l'enregistrement, de l'émission que j'enregistre en ce moment, c'est-à-dire que cette émission sera diffusée, si je ne m'abuse et si tout va bien, le 27 octobre prochain, eh bien nous saurons depuis deux jours qui a reçu le prestigieux prix du gouverneur, prix du gouverneur général, voilà, pardon, catégorie roman. Et je me permets, moi, de donner mon pronostic. Bon, il y a cinq ouvrages qui sont dans la lutte. Il y a, et c'est celui que je donne vainqueur, « La femme qui fuit » d'Anaïs Barbeau-Lavalette, dont nous avons adoré le livre et le passage dans ce studio. Vous savez, l'histoire de cette femme qui abandonne mari et enfant pour vivre sa vie d'artiste. C'est une femme qui ne sait pas encore que sa propre petite fille, Anaïs Barbeau-Lavalette, va la suivre à la trace dans ce livre « La femme qui fuit ». Mais il y en a d'autres, hein, quand même. Et pas les moindres. Par exemple, « Au péril de la mer » de Dominique Fortier. Nous sommes au Mont-Saint-Michel, deux êtres à deux époques différentes qui cherchent le pays des livres. C'est un fabuleux hommage aux livres et à ceux qui les font. Dominique Fortier, futur invité d'ailleurs de l'émission « Des livres pleins les oreilles » et le livre « Au péril de la mer ». Également, parmi les livres qui sont en nomination, de Martine Delvaux, « Blanc dehors, blanc dehors ». C'est une jeune femme qui, elle, se lance sur les traces de celui qui n'a pas voulu être son père. Petite parenté, là, hein, avec Madame Anaïs Barbeau-Lavalette. Et Martine Delvaux est également pressentie, hein, du moins elle est déjà invitée, pour venir à l'émission pour nous parler de ce livre important, hein, au Québec, « Blanc dehors ». Un autre livre important et un autre auteur souhaité à l'émission des livres pleins les oreilles, c'est Daniel Grenier. Daniel Grenier qui a signé un livre passionnant qui s'appelle « L'année la plus longue », une fresque épique, une fresque familiale aussi, que j'ai lue, que j'ai dévorée en fait. avec entre autres un homme qui ne fête son anniversaire que tous les 4 ans, et puis son ancêtre à lui, qui ne vieillissait que d'un an tous les 4 ans. C'est une année qui dure près de 3 siècles, ce livre-là, et une grande histoire absolument fascinante. Et Monsieur Daniel Grenier est donc aussi en nomination, était en nomination pour recevoir le prix du gouverneur général. Je vous rappelle que nous sommes 3 jours après que le Grand Prix ait été décerné, et que donc je ne sais pas parmi les 5 qui sont en lice lequel l'aura reçu, et que moi, je prédis, je donne mon pronostic, allez, je me lance, pour Anaïs Barbeau-Lavalette. Il y en a un 5e, il est d'Hugues Corriveau. Ça s'appelle « Les enfants de Liverpool ». C'est entre l'approche documentaire et la fiction. Hugues Corriveau, qui est aussi un collaborateur du Devoir, qui adopte là une position assez périlleuse dans ce qui est quand même son 30e livre. Lui aussi, il faudrait bien qu'il vienne à un moment donné faire l'émission. S'il relate minutieusement des faits avérés, il se glisse aussi dans la peau de jeunes meurtriers dont c'est le procès. Et dans ce livre-là, « Les enfants de Liverpool », que je vous avoue ne pas avoir encore lu, nous sommes avant, pendant et après l'acte horrifiant, inconcevable, que ces jeunes écoliers, et ils sont vraiment tout jeunes, ce sont, d'où le titre « Les enfants de Liverpool » ont commis. Et c'est une histoire vraie. Alors c'est donc, c'est à lire aussi « Les enfants de Liverpool ». Alors, d'après vous, là, la femme qui fuit, au péril de la mer, blanc dehors, l'année la plus longue, les enfants de Liverpool, autrement dit, qui a reçu le prix du gouverneur général il y a 3 jours? Anaïs Barbeau-Lavalette, Dominique Fortier, Martine Delvaux, Daniel Grenier ou Hugues Corriveau? De toute façon, si on ne les a pas déjà reçus, ce sont des gens qui feront l'émission prochainement et qui vous présenteront ces livres. C'est bon signe quand on reçoit 2 fois la même personne à la même émission. Ça veut dire que d'abord, l'émission dure depuis déjà quelques années. Et ce n'est pas Carmen Lepage qui était là un petit peu plus tôt à l'émission qui pourrait dire le contraire. Elle qui avait créé l'émission à l'époque avec Michel Gélinas à Livre Découvert, vous vous en souvenez sûrement. Eh bien, lorsque j'avais repris les rênes, très rapidement, j'avais accueilli Agnès Gruda qui avait sorti un premier recueil de nouvelles. Et là, elle vient d'en sortir un deuxième. Ça s'appelle « Mourir, mais pas trop ». Et j'ai rarement, en tout cas, je n'ai pas souvent l'habitude de faire ça, mais pour une fois, je vais le faire. Je voudrais lire ce qui est en quatrième de couverture, parce que ça me semble tellement proche. Exactement, si on veut savoir ce qu'il y a dans ce bouquin, eh bien, on lit la quatrième de couvre pour une fois et on sait exactement dans quel univers on se trouve. Nous avions presque le même âge. En réalité, mon frère avait 1 an de moins que moi. Et Flo s'est rendu compte qu'elle avait conjugué le verbe « avoir » à l'imparfait, écrit Agnès Gruda. Ce frère donc, qui avait combattu l'armée irakienne et fui la répression des ayatollahs, eh bien il est mort, d'une balle perdue, 1 an après avoir atterri à Montréal. Aussi bête que ça. Ça s'est passé en plein jour dans une rue tranquille d'un quartier résidentiel où la famille s'était établie quelques semaines après son arrivée au Canada. Vous imaginez? Survivre à la guerre, à la dictature et mourir d'une balle perdue à l'aval des rapides. Voilà, pour la quatrième de couverture de ce deuxième recueil de nouvelles signé Agnès Gruda, où vous le voyez, la mort est au rendez-vous. D'ailleurs, on nous dit ici, il y a toutes sortes de manières de mourir. Et d'ailleurs, ne mourons-nous pas tous un peu chaque jour, que ce soit une séparation amoureuse ou la révélation d'une infidélité de l'être cher, ou la prise de conscience que notre enfance nous a échappé à tout jamais. La vie est pleine de ces moments où quelque chose se termine irrémédiablement et où quelque chose commence peut-être, mais comment en être sûr? On peut compter sur la plume d'Agnès Gruda. J'avais été fascinée par l'écriture. Autant il y a l'écriture de la chroniqueuse, hein, spécialiste en international dans la presse, autant il y a l'écriture de l'auteur. J'ai bien hâte de savoir pourquoi est-ce qu'elle en est encore au stade de la nouvelle. Non pas que ce soit péjoratif et réducteur, ce que je viens de dire, mais j'ai tellement hâte qu'elle passe un jour un roman. Vous savez, un bon gros roman de 1000 pages. Allez, on y va. « Avant de passer au titre en rafale, je voudrais, de toute façon, ça en fait partie parce que celui-ci est sorti au SQLA en version audio depuis seulement très peu de temps, L'amant japonais, traduit de l'espagnol par Jean-Claude Masson. C'est un livre d'Isabelle Allende et je voudrais vous dire que la semaine prochaine, notre ami bénévole qui viendra à cette émission n'est nul autre que Francine Fontaine, celle qui a lu L'amant japonais d'Isabelle Allende, bénévolement bien sûr, dans les locaux, dans les studios de Vues et Voix, pour que tout cela vous soit disponible via le SQLA. Alors également, quelques titres en rafale pour terminer cette émission, comme je le fais toujours, à chaque semaine. D'abord, la parole donnée à deux ancêtres. Une ancêtre américaine, en l'occurrence Shirley MacLaine, qui nous a habitués à sortir des livres. Parfois, elle nous invite à nous envoyer en l'air, je veux dire, dans les étoiles. Entendez-moi bien, pourquoi ce petit sourire tout de suite ? Mais c'est vrai qu'elle est quand même très, très, très ésotérique, la madame. Et là, elle nous fait un truc, elle nous dit « Et si, point de suspension ?» Toute une vie de questions, de conjectures, d'hypothèses raisonnables et quelques certitudes. Et c'est signé Shirley MacLaine qui dit, par exemple, « Je pense parfois qu'il est plus amusant de se perdre en conjectures que de savoir. De toute façon, les réponses finissent toujours par m'inspirer d'autres questions. » Dans ce nouveau recueil d'idées et d'observations, commençant chacune par deux mots simples mais évocateurs, « Et si ?» point de suspension. Shirley MacLaine, actrice adulée bien sûr et auteure de plusieurs best-sellers, réfléchit à une foule de questions allant du quotidien à, tenez, elle y revient, l'ésotérisme. Alors, Shirley MacLaine, et si, toute une vie de questions, de conjectures, d'hypothèses raisonnables et quelques certitudes. Et puis notre Jeannette Bertrand à nous, qui a écrit, qui a fait paraître il y a quelques mois « La vieillesse par une vraie vieille ». Eh bien ça y est, ça a été enregistré. Résumé, ce sont ces mots à elle. Ou bien t'es vieux, ou bien t'es mort. À tous ceux et celles qui ont peur de vieillir, puisqu'il nous faut vieillir, mieux vaut que ce soit dans la joie. Non, la vieillesse n'est pas un naufrage. Oui, il y a du plaisir après 65 ans. Oui, il y a des bobos, des inconvénients. Mais oui, il y a de l'amour. Au cours de ma longue vie, écrit Jeannette Bertrand, j'ai accumulé des moyens efficaces pour mieux passer les 30 ans supplémentaires que la science nous alloue. Je veux les partager avec vous. Ils fonctionnent. J'en suis la preuve, puisqu'après la retraite, on va vivre encore de longues années. Ce serait dommage de les gaspiller ou même de les gâcher. Elles sont précieuses. La vieillesse par une vraie vieille, par nul autre que Jeannette Bertrand. En voilà un autre que j'aimerais bien inviter un de ces jours, c'est Claude Jasmin. Voici maintenant Angela, ma petite Italie de Claude Jasmin, également disponible depuis seulement quelques semaines au SQLA. Un beau jour, un beau 1er mai, un beau jour du muguet, jour de déménagement si on veut aussi pour certains. Le héros de ce récit voit s'établir derrière chez lui une famille d'Italiens. Et leur plus grande fille est une belle brunette aux yeux bleus qui s'installe sur la balançoire et patatang, c'est le coup de foudre. Mais Claude a du mal à s'approcher de sa belle. Elle est surveillée de près par son père qui fera tout pour éloigner le séducteur. On menace même le jeune amoureux de faire intervenir la mafia. Rien de moins. Claude a beau faire son malin en baragouinant quelques mots d'italien, au fond il tremble. Mais qu'est-ce qui lui fait le plus peur ? La mafia ou Germaine ? La mère de la jeune fille qui refuse de le voir. Ah non, sa propre mère à lui, qui refuse de le voir grandir et qui va jusqu'à prévenir la petite voisine que son Roméo de fils n'est qu'un Don Juan de ruelle. Voilà, signé Claude Jasmin, Angela, ma petite Italie. C'est le même thème qu'Eldorado de Laurent Godet, mais c'est écrit différemment avec Les Échoués de Pascal Manoukian. Nous sommes en 1992, Lampedusa est encore une petite île tranquille et aucun mur de barbelés ne court le long des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Virgile, le Moldave, Chanchal, le Bangladais et Hassan, le Somalien, sont des pionniers Et bientôt, des millions de désespérés prendront d'assaut les routes qu'ils sont en train d'ouvrir. Arrivés en France, vivants mais endettés et sans papier, les trois clandestins vont tout partager, les marchands de sommeil et les négriers, les drames et les petits bonheurs. On croit connaître le quotidien des clandestins, on pense imaginer leur long et difficile parcours pour arriver dans un pays malheureusement tout aussi brutal et dangereux. Mais Pascal Manoukian, je vais vous l'épeler, M-A-N-O-U-K-I-A-N, possède incontestablement ce petit supplément d'âme qui touche, sans comprendre pourquoi, au plus profond de soi. Aucun pathos, aucun cliché, juste une rencontre avec des hommes qui tentent de rester debout alors que tout les fait plier. Je vais finir rapidement avec L'air adulte d'Anne-Marie MacDonald. Vous savez, cette auteure jeunesse, auteure à succès, jeunesse ou pas d'ailleurs. Et son personnage féminin principal est une auteure jeunesse à succès, qui s'appelle Marie-Rose McKinnon, et qui a mis de côté son œuvre pour s'occuper de ses deux jeunes enfants. Tiens, ça rejoint un petit peu le thème du livre dont nous a parlé aujourd'hui Carmen Lepage, Lavage à froid unique. Je vais manquer de temps pour vous en parler plus, mais j'aime bien l'écriture de Madame MacDonald, alors j'avais envie de vous la proposer. Et voilà ce qui conclut cette émission. C'était Des livres pleins les oreilles. Clotilde Saye au micro qui vous remercie. Bonne semaine, bonne lecture.